Bienvenue à la série Le Monde Change, une série d'interviews, de reportages, de rencontres et de découvertes avec des gens d'ici, des proches qui témoignent des réalités d'ici et maintenant. Cette série est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Nombreux sont ceux qui désirent avoir un animal de compagnie. Petits et grands, nous rêvons à peu près tous d'avoir cet ami qui nous quittera jamais. Des petites et grandes bêtes qui nous accompagneront sur notre route. Les soins qu'on nous propose de leur prodiguer sont toutefois de plus en plus importants. Je vous amène dans le canton de Fatima, au Grand Ruisseau, à la seule clinique vétérinaire de l'archipel, pour y rencontrer Monica au coin.
Je suis née à l'Étang du Nord il y a 37 ans déjà. Grandi aux îles, je me suis exilée pour étudier en 2005, revenue en 2015. Un retour prévu et attendu. Depuis, j'habite maintenant au bassin où j'ai fondé ma petite famille avec mon conjoint et nos trois enfants. 6, 4 et 1 an.
Il y a de l'action chez vous.
Beaucoup d'action. Beaucoup, beaucoup.
À quel moment tu as su que tu serais vétérinaire?
Toujours. C'est la réponse classique de la petite fille qui sait depuis qu'elle est toute petite qu'elle va s'occuper des animaux à jour, là. Depuis toujours, là, les petits oiseaux blessés sur le terrain, les chats chez ma grand-mère. Maman te dirait sûrement qu'elle a tout le temps su parce que dès qu'il y avait un animal dans le décor, c'était instinctif et instantané, là. Je m'en allais avec l'animal.
Alors, très tôt, là, tu voulais les guérir, tu voulais les sauver?
Oui, ben j'ai fait sauver plusieurs chatons à ma grand-mère, des chatons que j'ai ramenés chez elle, avec son consentement pis pas, je pense qu'elle disait oui parce qu'elle aurait jamais osé dire non, là. Mais oui, des chats errants, là, ma grand-maman m'en a sauvé plusieurs parce que mon papa était allergique. On a eu un chat chez nous quand j'étais ado, c'est ça, mon papa était allergique, fait que c'était difficile d'avoir des animaux à la maison, fait que c'est ma grand-maman, là, qui m'aidait là-dedans. Elle aussi a adopté un chien, à un moment donné, ma voisine avait eu une portée de chien. Puis il en restait un qui n'avait pas de famille. Puis j'avais réussi à être assez ratoureuse pour convaincre ma grand-mère de le prendre chez elle.
Aux îles de la Madeleine, il n'y a pas si longtemps, à part que les chats, les chiens, puis les bêtes d'élevage, il n'y avait pas tant que ça d'animaux.
Quand j'étais enfant, j'ai commencé à venir passer des journées avec Mireille, j'étais quand même pas très vieille, là. Chats, chiens, puis même à ça, je pense qu'à cette époque-là, je pourrais dire, sans me tromper, que c'était majoritairement des chiens, en fait, là. Les gens étaient pas nécessairement prêts à faire soigner des chats ou à dépenser pour des chats. On avait un peu la mentalité de « j'ai pas payé pour, pourquoi est-ce que je débourserais pour le faire soigner? » Ce qui a vraiment beaucoup évolué aujourd'hui, là. Maintenant, on voit des chiens, des chats, des lapins... Des furets, des cochons d'Inde, j'ai même soigné un hamster il n'y a pas si longtemps.
Vous parlez de Mireille Lapierre, la fondatrice de la clinique vétérinaire de l'archipel, que vous avez connue il y a très longtemps.
Je pense que j'ai rencontré Mireille, il y a un chien qui s'était fait frapper devant chez nous. Puis les policiers sont venus, moi j'étais avec le chien que je connaissais pas, qui était allongé sur le bord de la route. Puis quand Mireille est venue le chercher, parce qu'on savait pas c'était à qui, je lui ai demandé si je pouvais embarquer avec elle, puis venir à la clinique, voir qu'est-ce qu'elle faisait, puis m'embarquer avec elle. Je devais avoir peut-être une douzaine d'années. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis après, je suis venue à plusieurs reprises passer des journées avec elle.
Pour la voir dans son quotidien.
Ouais, voir qu'est-ce qu'elle faisait. Passer du temps avec les animaux, évidemment.
Où vous avez entrepris vos études afin de devenir vétérinaire?
À Saint-Hyacinthe. En fait, c'est la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. C'est la seule université francophone qui offre le cours en Amérique. Si on veut étudier la médecine vétérinaire en français, c'est Saint-Hyacinthe.
Et ça dure combien d'années?
Le doctorat de base, c'est un doctorat de premier cycle, c'est 5 ans. Moi, j'ai fait ça, puis ensuite, j'ai fait une année de spécialisation en médecine chirurgie des animaux de compagnie.
Quel était votre cours préféré?
C'est vraiment une bonne question. Les premières années du doctorat, c'est vraiment plus de la théorie biochimie, puis vraiment plus la base. Les cours plus théoriques vraiment de médecine vétérinaire apparaissent à partir de la 3e année. Je dirais qu'à partir de là, probablement le classique médecine des animaux de compagnie, là, vraiment le cours le plus appliqué.
Il y a des petites bêtes et des grosses bêtes. L'enjeu est pas le même. Parlez-nous des défis auxquels on doit faire face. Il y a des distinctions quand même assez importantes. Aux îles, est-ce qu'il y a d'abord encore des bêtes d'élevage?
Oui, oui, on a quand même plusieurs producteurs. La ferme Pointe-Basse, là, qui est associée à la fromagerie que tout le monde connaît. On va aussi régulièrement voir les biquettes, les moutons du large aussi. Puis quelques élevages de bovins laitiers ou de boucherie par-ci par-là. Fait que oui, on voit quand même des grands animaux, pas de manière hebdomadaire, là, mais une à deux fois par mois, je dirais facilement. C'est sûr que l'enjeu est pas le même parce que faire des grands animaux une à deux fois par mois, ben, c'est pas une pratique qui est très fréquente. Fait que c'est difficile de rester aussi à jour et aussi efficace dans notre médecine. On fait vraiment notre maximum pour les aider puis en prendre soin, ça c'est certain. Je dirais que c'est ça l'enjeu principal des grands animaux, c'est de rester à jour dans nos connaissances puis dans notre efficacité, vu que le volume de cas est moins grand. Mais tout aussi intéressant pareil. Ça fait du bien d'aller à la ferme puis de changer d'air. On est tout le temps content d'aller faire un tour.
Ça vous arrive d'aider l'accouchement d'un veau?
Oui, oui, ça nous est arrivé à quelques reprises, c'est certain. La majorité des producteurs sont très à l'aise et très habitués. C'est sûr qu'ils ne nous téléphonent pas quand ça se passe bien en général. On a quand même plusieurs belles expériences et beaux souvenirs là, de vêlage, surtout avec des vaches, ouais.
Et les chevaux? Il y en a quand même quelques-uns aux îles.
Il y en a beaucoup. On les voit moins. C'est sûr que les vaches étant des animaux de production, faut qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir produire du lait puis être rentable, hein, veut pas. Les chevaux, c'est pas des animaux de production, c'est plus des animaux de compagnie. Maintenant, il y a pas de course, plus de course au Québec, c'est plus légal. Fait qu'on les voit un peu moins souvent, mais oui, il y en a quand même plusieurs.
Et les petits animaux de compagnie, vous en voyez souvent?
Oui, eux, ils remplissent bien notre horaire. C'est grâce à eux qu'on est là. Pour eux qu'on est là principalement aussi, c'est certain. Là, c'est la clientèle principale de la clinique, les chats et les chiens. Aujourd'hui, c'est pas mal 50-50, je dirais, là. Ouais.
50% de chats, 50% de chiens.
Ouais, ça doit ressembler pas mal à ça.
Et il y a beaucoup d'animaux de compagnie, outre les chats et les chiens, les fameux furets, les hamsters. Ça aussi, ça demande des soins?
Oui, beaucoup moins fréquemment. Ça nous arrive d'en voir. C'est sûr qu'on est la seule clinique, hein, fait que on voit de tout. Tout animal qui a besoin de soins, c'est par ici qu'il passe. Fait que c'est pas routinier du tout.
Tu es si fort et si fragile. Viens dans mes bras, je te ferai unir. Ce lien qui nous lie ne cassera pas. Ne pleure pas, je suis là. Car tu vis dans ça. Oui, tu vis dans mon cœur. Dès maintenant jusqu'à la nuit des temps. Tu vis dans mon cœur. Qu'importe le discours, tu vivras dans mon cœur.
Monica Aucoin, vous êtes la seule vétérinaire aux îles de la Madeleine?
Présentement, oui. On en a parlé, Mireille et moi, depuis quelques années. Là, pour l'instant, Mireille est en pause. On cherche et on obtient en général du renfort, mais officiellement, présentement, oui. Je suis toute seule de vétérinaire dans la seule clinique pour desservir la population des îles.
Et je viens de voir l'un de vos collègues, je crois, est vétérinaire. Lui aussi, vous avez de l'aide, des renforts de l'extérieur?
Oui, présentement, depuis deux semaines. J'ai un collègue de classe et sa conjointe qui sont ici là pour 3 mois. Me donner un petit répit et prêter main forte. C'est le fun d'être plusieurs puis de pouvoir partager nos expériences, se questionner ensemble. Ça nous permet de remettre les choses en perspective puis parfois de pousser plus loin nos cas et nos réflexions. Je suis vraiment contente de les avoir.
Les Madelinos et visiteurs ont beaucoup d'animaux de compagnie.
Oui, vraiment beaucoup. Puis depuis la pandémie, ça a vraiment explosé. On a vu un très grand nombre d'adoptions. Ça s'est calmé, je dirais, dans la dernière année, là, mais oui, il y en a vraiment beaucoup.
Au cours des 10 dernières années, les frais associés à leurs soins ont explosé. On parle de nourriture spécialisée, de tons, de la pédicure, des vaccins, des nettoyages, des gammes de produits offerts. C'est presque à l'infini, sans oublier la fameuse éducation ou formation des cours. C'est compliqué d'avoir un animal de compagnie aujourd'hui?
Ça peut vraiment devenir compliqué, en effet, puis c'est facile de se perdre dans tout ce qui est offert en termes de produits, de nourriture, de jouets, tout à fait. Si on veut dépenser, on peut vraiment trouver beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'essaie de sensibiliser les gens au principal. L'important, je pense que c'est vraiment de faire stériliser les animaux, c'est la base. On veut vraiment limiter la surpopulation, puis essayer de contrôler où ces animaux-là se retrouvent pour que, premièrement, favoriser au maximum le bien-être animal, puis favoriser leur santé, donc les stériliser, puis les faire examiner une fois par année, juste parce que il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Puis plus on attrape les problèmes de santé tôt, ben plus on est capable de les soigner longtemps.
On est capable de les avoir pendant combien d'années aujourd'hui? Est-ce que la longévité a augmenté?
Je dirais que oui, c'est difficile à évaluer précisément, mais les chiens, selon les races, c'est sûr que plus la race est grande, en général, moins ils vivent longtemps. Les très, très grands chiens, là, les races géantes, comme les grands danois, par exemple, souvent ont une longévité autour de 8 à 10 ans, si on est chanceux. Mais nos petits caniches, nos petits Yorkshire, là, on en voit beaucoup qui vivent 13, 14, 15 ans, là, présentement. Là. Oh, oui, tout à fait.
Et le chat?
Le chat, en moyenne, c'est comme ça, ça dépend vraiment. On en a beaucoup qui vivent une quinzaine d'années aussi. Là. C'est plus rare maintenant là, de voir un chat de 15, 16 ans. Là.
Le plaisir d'y avoir longtemps. Oui. Est-ce que ça existe encore? Les fameux bâtards, les chiens qu'on voyait dans nos champs, aux îles, qui se promenaient librement, à mon point de vue, c'était des bons chiens. J'en ai eu et j'avoue avoir une préférence pour eux.
Ben oui, on en voit encore, là, des chiens de race croisée ou de race inconnue, oui. Puis en effet, je pense qu'il y a une tendance à avoir peut-être plus aujourd'hui, là, mais j'ai l'impression qu'ils ont tendance à avoir moins de problèmes de santé. C'est sûr que les races super populaires, puis je vais prendre comme exemple le Bouvier bernois parce que c'est l'exemple le plus connu de la population, là, qui ont été vraiment très, très, très populaires et reproduits de manière massive. On a un peu brisé la race, entre guillemets, parce qu'on a voulu satisfaire à la demande, puis on a reproduit des parents qui avaient des torts génétiques, puis on a causé débris dans la race pour leur causer plein de problèmes de santé. Fait que c'est certain que les bons vieux bâtards qu'on a connus par le passé, puis on en voit encore là, ici aux îles, souvent ils sont plus résistants et plus robustes, ouais, souvent.
On va faire une pause avec une chanson qui nous rappelle que le bonheur est à portée de main et les animaux sont là souvent pour nous le rappeler. Voici un extrait du film de Walt Disney, Le Livre de la Jungle.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux.
Tu manges des fourmis?
Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein?
Mowgli, attention!
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui!
Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame, si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris?
Oui, merci Balou.
Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités.
Alors viens toi, et en cadence.
Oh. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux?
Pour être heureux.
Vous êtes toujours à la série Le Monde Change avec Monica au coin. Le printemps est à nos portes. La maladie de Lyme, elle est présente ici comme ailleurs. Elle effraie aussi parfois pour nous parce que c'est difficile en termes de diagnostic et c'est difficile surtout en termes de traitement. Alors pour nous et pour nos animaux de compagnie, quelles sont les précautions à prendre?
En effet, la maladie de Lyme est présente ici. On a beaucoup de questionnements à ce sujet-là. Ça arrive souvent que les gens nous téléphonent pour en avoir la confirmation. Ici, suivi en clinique, on doit avoir maintenant proche d'une dizaine de chiens qu'on sait qui sont positifs, donc porteurs de la maladie de Lyme. Ils peuvent pas la transmettre aux humains. C'est vraiment transmis par morsure de tique. Puis la tique à pattes noires, c'est celle qui est la plus fréquente ici, là, présentement. Elle est porteuse aussi de l'anaplasmose, qui est une autre maladie transmissible par les tiques. Puis ça aussi, on a quelques cas déjà déclarés chez des chiens ici. Pour que les gens soient au courant, ça existe, c'est vraiment vrai, on en a pour vrai. Donc, de se protéger, en fait, les tiques aiment surtout les milieux humides, les boisés. Quand on va marcher dans le parc des Bocs, par exemple, ou dans les boisés, les terrains plus marécageux aussi, pour ceux qui font la chasse, là, super pertinent là, de porter des vêtements longs, puis quand on revient à la maison, de s'assurer qu'on n'a pas été mordu. Pareillement pour les animaux, il existe des protections. C'est des comprimés à donner, des comprimés ou des produits qu'on applique sur la peau, là, qui protègent des tiques, en fait. C'est pas mal la meilleure protection, puis maintenant, on la conseille à tout le monde parce que ouais, malheureusement, ça devient de plus en plus fréquent. On sait qu'il y en a beaucoup.
Est-ce qu'on peut regarder si notre animal de compagnie a ça sur lui? Est-ce qu'on a des indications qui peuvent nous indiquer que est-ce que le chien ou le chat va se gratter, comme par exemple?
Souvent, les animaux en font pas vraiment cas parce qu'un coup qu'elle a mordu, en fait, la tique, elle mord puis elle reste accrochée. C'est pas comme les puces qui se promènent sur l'animal. Elle mord puis elle reste accrochée ou elle a mordu. Ça ressemble vraiment à une verrue grisâtre. Fait que souvent, les gens pensent que leur animal a une verrue et se présente puis c'est une tique. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation, de fait, c'est le contraire. Les gens pensent que leur animal a une tique puis se présente, c'est juste une verrue. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Le meilleur moyen de les détecter, c'est vraiment de flatter l'animal, surtout s'il a le poil long, là. Quand on revient des promenades, de vraiment le flatter en profondeur ou de le brosser. Comme ça, en général, on va s'en rendre compte parce qu'on va accrocher sur la tique, là, avec la brosse ou le peigne, là.
Est-ce que tu as peur de développer des allergies aux animaux?
Et je te dirais oui si j'étais pas déjà allergique, comme beaucoup de gens dans mon équipe, malheureusement. Mais bon, on prend des réactines, puis on survit, on les aime trop pour arrêter notre métier à cause de ça.
Évidemment, on s'attache à ces petites bêtes-là. Elles deviennent presque des membres de notre famille. Comment on fait pour signifier au propriétaire que tout a été fait?
Ouais, c'est la partie difficile de notre métier, je dirais, là, ça, puis les coûts associés aux soins vétérinaires. C'est les deux aspects négatifs, je dirais, de notre pratique. C'est certain que, en fait, ici, à la clinique vétérinaire de l'archipel, on fait plus d'euthanasie qu'on appelle de convenance. Fait qu'on fait pas l'euthanasie d'animaux sans raison médicale. Pour qu'on accepte d'euthanasier un animal, il faut qu'il y ait une raison médicale en dessous de ça. Ça se peut que ça soit un animal en fin de vie, que justement, on a tout fait. C'est sûr qu'on comprend que parfois, il y a des procédures qui sont trop dispendieuses. Je pense entre autres à un animal qui se serait fait frapper puis qui aurait besoin d'une grosse chirurgie qui pourrait pas être faite ici. C'est l'exemple le plus concret qui me vient en tête, là. Et des fois, c'est une raison qui est évoquée pour l'euthanasie. Puis c'est certain que si on peut pas permettre à l'animal de vivre une vie sans douleur, ça se peut qu'on accepte de l'euthanasier même s'il est jeune puis qu'il y aurait quelque chose à faire pour le sauver parce qu'on comprend que c'est pas tout le monde qui a un budget illimité pour leur animal. Comment on leur signifie que tout a été fait? Ben, on essaie d'être le plus compréhensif possible parce que comme tu l'as dit tantôt, ils font de plus en plus vraiment partie intégrante de la famille puis les gens les aiment beaucoup puis c'est difficile de prendre cette décision-là, d'accepter que c'est nous qui. Souvent, les gens, ils se sentent vraiment coupables de prendre la décision de faire euthanasier leur animal. Fait qu'on essaie de les accompagner là-dedans, puis d'être juste dans la compassion puis la sympathie, parce qu'on le sait que c'est pas facile. Mais faut se dire que d'être capable de prendre cette décision-là avant que l'animal souffre trop, c'est vraiment un geste d'amour.
Comment voit-on, pour vous, un animal heureux?
On en voit vraiment beaucoup. La grosse majorité des animaux qu'on voit ici, c'est des animaux heureux puis en santé. Là, je veux dire, ça paraît, là, ils sont contents. Mais en fait, c'est difficile ici parce que ça veut pas dire que parce qu'il est pas content d'être ici, qu'il est pas heureux à la maison, là, parce que c'est certain qu'on a un environnement particulier quand même vraiment stressant pour eux autres. Mais un animal qui reçoit de l'amour, qui est au chaud, qui est nourri, puis que ses besoins de base sont répondus, pour moi, c'est un animal heureux, en fait, là. On n'en voit plus maintenant, ou presque plus de nos jours, des chiens attachés dehors, sans compagnie, sans abri, là, en fait, là. Puis des animaux traînent de moins en moins dehors. On a une problématique de chats errants présentement sur nous. Aux îles, par contre. Là. Je pense que l'important, c'est qu'ils aient de l'amour, de la nourriture, puis un endroit où se mettre au chaud.
Qu'est-ce que tu aimerais transmettre par-dessus tout aux propriétaires d'animaux? Parce que tu le dis, aujourd'hui, on ne voit plus d'animaux maltraités ou presque, c'est tout à fait rarissime.
On en voit effectivement de moins en moins, oui. Comme on en a parlé tantôt, je pense que l'important, c'est vaut mieux prévenir que guérir. C'est sûr que, comme on parlait, les soins vétérinaires coûtent beaucoup de sous. Fait que c'est par la prévention qu'on va économiser puis qu'on va garder nos animaux le plus longtemps possible. Fait que les faire stériliser, les faire examiner une fois par année, les vermifuges, le traitement plus éthique, les vaccins s'ils vont à l'extérieur, essayer de les garder en santé le plus longtemps possible.
Un cas qui vous a ému, émerveillé dans votre carrière?
Ça fait quand même déjà 10 ans cette année que je suis vétérinaire. Il y en a plein qui vont me traverser l'esprit. Là, je pense vite de même, entre autres, à Rosie. C'était, je crois, l'Abernois croisé dans mes premières années ici que la cliente avait présenté à la clinique parce qu'elle allait vraiment pas bien. Elle m'a un peu découragée, pensant peut-être que c'était la fin. Finalement, on lui a trouvé un diabète. La dame, elle s'est lancée dans le traitement, puis Rosie a vécu vraiment plusieurs belles années par la suite. C'est vraiment des cas qui sont gratifiants, là, quand les animaux récupèrent, puis qu'on les revoit en suivi longtemps, puis que les gens sont capables de les soigner, puis de leur permettre de vivre plusieurs années. J'en ai plusieurs, des petits cas comme ça, de maladies chroniques, là, qui vont bien, puis qu'on soigne depuis longtemps. Un des cas dont on est particulièrement fiers ici, puis je pense qu'il y a plusieurs membres de l'équipe qui le rapporteraient tout comme moi, là. Aujourd'hui, il s'appelle Loki. Un gros malamute croisé, on pense, en tout cas, qui a été trouvé errant sur les îles, puis qui n'a pas été réclamé. Toute l'équipe a eu un coup de cœur pour lui parce qu'il était vraiment trop adorable et trop gentil. Par contre, il avait une grosse tumeur qu'on a espérée non cancéreuse, qu'on a choisi d'opérer malgré tous les risques que ça impliquait parce que il a conquis le cœur de toute l'équipe. Puis la chirurgie a réussi, on a cherché une famille pour lui, on l'a trouvé, puis ça doit faire au moins 5 ans aujourd'hui, là. Il est toujours bien vivant et bien heureux avec ses propriétaires qui ont accepté de lui donner une deuxième chance. C'est pour des cas comme ça aussi qu'on est là.
Monica Aucoin, 10 ans, félicitations. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Ben que ça continue encore très longtemps. Depuis 2 ans maintenant, j'ai pris la relève de la clinique ici. C'est ma deuxième famille. Je les aime de tout mon cœur. Puis j'espère pouvoir continuer à travailler avec eux puis avec toutes les petits et les grands poilus pour de nombreuses années encore.
Oui. Et on vous souhaite bonne chance avec votre belle petite famille. 3 enfants à la maison. Oui. C'est du sport.
Oui, 3 enfants à 2 pattes et 4 enfants à 4 pattes. Une grande famille qui nous tient bien occupés. Merci, merci à toi.
Merci à Monica Aucoin. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Ici Michel Landry. Joyeuse Pâques et portez-vous bien.